Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Les mesures de sécurité ont été renforcées en République tchèque après un avertissement de Washington. Un manuel homophobe a été retiré de la liste recommandée aux élèves par le ministère de l'Éducation. Et puis en basket, ce sont les championnats du monde féminins et les Tchèques sont en finale aujourd'hui. Les autorités tchèques ont renforcé les mesures de sécurité dans le pays suite à un avertissement venant des États-Unis sur une potentielle menace d'attentat terroriste en Europe. Selon Michal Moroz, adjoint du ministre tchèque de l'Intérieur, la sécurité a notamment été renforcée à l'aéroport de Prague-Ruzyně. Sans fournir de détails, Washington a prévenu dimanche matin ses ressortissants qu'Al-Qaïda préparait des attaques terroristes sur le sol européen. Le ministère tchèque de l'Éducation, sous la pression d'une association homosexuelle, a décidé de retirer de la bibliographie recommandée aux élèves un manuel d'éthique. L'association Charlie s'était plainte que ce manuel était homophobe et soutenait des croyances religieuses très conservatrices. Il était écrit notamment que les homosexuels étaient psychiquement instables et avaient besoin d'être soignés. Le livre met également en garde contre la masturbation et l'utilisation du préservatif. Le ministère a indiqué avoir enlevé de la bibliographie recommandée tous les livres écrits par le co-auteur de ce manuel, Ladislav Lenz. On passe au sport avec bien sûr du basket féminin. Victoire de la sélection tchèque samedi soir sur la Biélorussie à Karlovy Vary devant leur public en demi-finale du mondial. Score final 81-77 après la prolongation et un beau suspense. L'adversaire de l'équipe tchèque sera l'équipe grande favorite pour le titre des États-Unis qui ont surclassé vendredi soir leurs adversaires espagnols de plus de 30 points. La finale se joue donc ce dimanche à partir de 19h30, toujours à Karlovy Vary. Et puis du football, le jeune attaquant ivoirien Bonny Wilfried du Sparta Prague a été convoqué pour la première fois en équipe nationale ivoirienne. Âgé de 21 ans, il est arrivé dans la capitale tchèque il y a 3 ans et après une période d'adaptation, Bonny Wilfried a su s'imposer en pointe de l'attaque du Sparta. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, François Zawi, l'a mis sur la liste des 20 éléphants retenus pour affronter le Burundi. Ce sera le 9 octobre à Bujumbura en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. C'est une récompense de mon travail, mais ce n'est que le début. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut toujours continuer à travailler. C'est ce qu'a déclaré le buteur ivoirien à l'AFP peu après avoir appris cette nouvelle ce week-end. La météo, ce dimanche, jour de fête des Bohumil en République tchèque, le ciel devrait rester partiellement dégagé. Les températures diurnes se situent entre 13 et 17 degrés Celsius pour les maximales. Le bulletin d'information vous était présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. On se retrouve dans 3 heures pour un nouveau bulletin. Mais tout de suite, c'est la suite du programme en français de Radio Prague avec Anna Kubišta et un peu de culture.
Culture sans frontières. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. V plus W, ce sont sans doute les initiales les plus connues des Tchèques pour Jan Verech et Jiří Voskovec, les deux comédiens et comiques les plus appréciés et les plus renommés dans l'entre-deux-guerres. Daniel Montmartre est spécialiste du théâtre tchèque et notamment du théâtre libéré, Osvobozené divadlo, le théâtre d'avant-garde auquel leur destin est irrémédiablement associé. Après des études de russe et de tchèque, Daniel Montmartre s'est intéressé à ce théâtre dont sous le communisme, on ne parlait qu'à voix basse. Elle a eu la chance de rencontrer Jan Verech et de parler avec Jiří Voskovec avant leur disparition au tout début des années 80. Pour son travail d'analyse et de diffusion autour du théâtre tchèque, elle a reçu récemment du ministère de la Culture une médaille honorifique. Nous avons eu la chance de pouvoir lui parler lors de son court passage à Prague et de lui demander comment elle avait découvert ce fameux théâtre libéré.
Quand je suis venue ici en République, République démocratique tchécoslovaque, n'est-ce pas, à Prague, en 1966, je suis venue chez un cousin, un vieux cousin, du peintre figuratif Miloš Jiránek. Et c'était dans un petit appartement de la Malá Strana. Il m'a dit, bon, très bien, tu apprends le russe, très bien. Mais tu sais, parler tchèque, c'est un luxe. Mluví český je to luxus. Parce que seuls 15 millions de personnes sur notre terre parlent le tchèque. Et je me suis souvenu de ça. Il avait un cahier, un journal intime. Et de son journal intime, il nous a lu à sa cousine et à moi. Donc, il nous a lu les pages sur le théâtre libéré de Prague. Et j'ai toujours voulu en savoir plus. Alors, je me suis dit que quand je terminerai mes études de tchèque, je commencerai un doctorat sur le théâtre libéré de Prague.
Alors, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est ce théâtre libéré, est-ce que vous pourriez un petit peu revenir de manière succincte, je ne sais pas si c'est possible, sur ce qu'était le théâtre libéré, qui est évidemment très associé donc à ces deux personnalités du théâtre tchèque, Verich et Voskovec. Quand a-t-il été créé et pourquoi ?
Alors, ce théâtre libéré, c'était déjà un théâtre d'avant-garde. Il faut dire que l'avant-garde tchèque de l'époque voulait casser l'axe culturel Berlin-Prague-Vienne au profit de celui Paris-Prague-Moscou. Ça, c'est essentiel. Il y a eu des rapprochements de cette avant-garde tchèque entre Paris, notamment les surréalistes parisiens.
Les Dada.
Surtout les surréalistes bretons, Soupeaux, tous ces gens-là. Vraiment, il y a eu des essais qui ont été essentiels concernant le théâtre tchèque, les nouveautés du théâtre tchèque, vraiment la biomécanique de Meyerhold, elle est enseignée, tout ça, toutes ces choses-là. On voulait la modernité. On voulait, comme disait Taïgue, un véritable poème sur scène qui fasse appel aux cinq sens.
Une sorte de théâtre très complet, en fait.
Voilà. Une sorte de Gesamtkunstwerk. Ce à quoi ils sont parvenus plus tard. Il y a trois metteurs en scène qui vont se détacher de cette avant-garde, à savoir Hunzel, Freyka et Bourjan. Et c'est surtout Freyka qui, le premier, a décidé de l'appellation de théâtre libéré.
Et pourquoi libéré, justement?
Libéré de toutes les conventions.
Libertaire, finalement.
Oui, assez à la... Oui, parce que Freyka l'était, mais il a une autre destinée de tous ses essais. Voskovec et Verich faisaient partie. Ils ont créé, en 1925, un sketch, parce qu'ils étaient amis de longue date. Et Voskovec a convié Verich à jouer à l'Institut français de Prague, devant le buste de Molière, devant le professeur Eisenman, qui était un grand slaviste et très ami fervent de la cause tchécoslovaque.
Et qui était le directeur de l'Institut français à l'époque.
Voilà, exactement. Et ça s'appelait « Dialogue impropre pour une tombe ». Ils ont créé un style de la reine. Ils ont installé, ils sont mis au milieu, ils ont joué au milieu, ils ont mis l'assistance autour, comme dans un cirque, et tout le monde était croulé de rire. Ils se sont dit, on va perfectionner ça.
Sur quoi reposait justement ce duo Verich-Voskovec, puisque les deux avaient des caractères très différents, des physiques très différents aussi?
Ils avaient des physiques très différents, ils avaient des caractères très différents, mais ils se complétaient. Dans l'un de ces entretiens, Verich m'a dit, c'est comme si nous jouions sur la même corde d'un violon. Je trouve que c'est très poétique et ça signifie beaucoup.
Pour revenir un petit peu au Svobozené divadlo, donc le théâtre libéré, une des caractéristiques, vous dites en effet, c'est un théâtre d'avant-garde, une des caractéristiques qui est très liée aussi finalement à cette ère du temps des années de l'entre-deux-guerres, c'est que c'est un théâtre aussi très politique, d'une certaine façon, en tout cas où la politique déjà rentre dedans, mais en sort aussi d'une certaine façon.
Ah, n'est pas rentré tout de suite, attention, parce que Voskovets et Verich, au départ, ont écrit des revues. Ils jouaient, il faut dire qu'ils jouaient, ils écrivaient, alors ils écrivaient leurs pièces, ils écrivaient leurs chansons, et puis c'était surtout des revues musicales où il y avait six filles qui dansaient, les Yenchi Girls. Alors tout ça, c'est venu progressivement, hein, mais c'était vraiment de belles revues musicales avec des scénographies luxuriantes et des costumes exubérants.
Pour revenir donc quand même sur cet aspect politique, voilà, puisque il y a quand même beaucoup de pièces qui étaient des satires aussi, oui, politiques.
Alors au départ, Voskovets et Verich écrivaient des revues exotiques ou légendaires, et puis c'est la situation politique du début des années 30 qui les a amenés à se diriger vers la satire engagée. Au début, Voskovets ne voulait pas. Et puis, critiques communistes tels Foutchik les incita à se réveiller. Vraiment, martelèrent, réveillez-vous. Bientôt, il va être trop tard, etc. Et puis, c'est Verich qui a décidé d'accéder à cette satire engagée quand il y a eu la révolte des ouvriers de Dolny Lipova. Alors donc ils se sont dit, vraiment, il y a eu des ouvriers tués, et ils se sont dit on va
agir. Ils se sont aussi également exprimés sur l'actualité internationale, puisque je crois savoir qu'ils ont fait des revues sur Hitler.
Alors ils ont osé, dans L'âne et son ombre, en 1933, incarner Hitler dans un âne crevé. Ils avaient un véritable âne sur scène. Verich l'appelait Ios, il lui donnait une carotte pour qu'il arrive sur scène, et Verich, le plus costaud, montait sur cet âne, et cet âne, il a fini dans un zoo, et ils ont eu du mal à l'adapter.
Quelle réaction cette revue a suscité?
Alors, ça a suscité une réaction internationale, notamment une réaction de la part des Allemands, hein, de la part d'Hitler lui-même, qui a demandé à ce que la pièce soit retirée du répertoire. Et là, Edouard Beneš, qui était le ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque avant d'être second président, est allé en personne voir la pièce, et il a dit non, écoutez, nous ne pouvons pas la retirer du répertoire, je ne vois rien qui puisse faire de l'ombre à monsieur Hitler. En fait, bon, tout le monde avait compris. Et c'est allé crescendo jusqu'aux accords de Munich, et à la suite des accords de Munich, bien sûr, Hitler a fait ressortir une loi de Metternich pour fermer le théâtre. Il ne restait plus qu'à Voskovets et Verich de partir, et à leur famille, sinon ils auraient eu des
ennuis. Auraient eu des graves problèmes, oui. Alors justement, puisque vous arrivez à 1938, donc évidemment pendant la guerre, le théâtre fonctionne pas, et Voskovets semble d'ailleurs fera partie de la résistance, enfin en France, je sais plus exactement.
Ils ont le temps d'aller leurs idoles, ce sont les frères Fratellini au Cirque Medrano. Alors, Voskovets fait connaissance avec les frères Fratellini lors de son premier séjour en France, lorsqu'il est élève du lycée Carnot de Dijon, parce que l'un des amis de la famille Voskovets veille sur le jeune Georges, Georges, et... c'est Chima, le peintre Chima.
Joseph Chima,
oui. Oui, Joseph Chima, qui veille sur lui et qui l'emmène à Paris voir les frères Fratellini au Cirque Medrano. Alors avant de regagner, ils partent aux États-Unis pendant la guerre. Et pendant la guerre, ils s'envoient des émissions pour destiner aux Tchécoslovaques restés dans leur pays. Ils sont quand même rentrés à Prague, Wehrich en premier.
En 1945, tout de suite.
Ils sont rentrés à Prague. Et puis,
Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, de reprendre le théâtre à ce moment-là?
Alors, ils ont voulu reprendre le théâtre, le reformer. Ils ont joué L'homme qui vient pour dîner 250 fois dans le théâtre qui s'appelait le théâtre de Voskovets et Wehrich. Mais alors, comme m'a dit Voskovets lors de l'un de nos entretiens à New York, il savait que la situation était complètement changée et qu'il n'allait plus pouvoir s'exprimer. Donc il a choisi l'exil. D'abord, il est allé à l'UNESCO.
C'est vrai que finalement l'histoire va séparer ces deux inséparables, hein, puisque Wehrich, lui, par contre, restera à Prague.
Oui, il restera à Prague. Il aura une période assez creuse. On lui demandera d'aller se produire sur scène, d'aller chanter avec un orchestre, etc. Et puis il reformera un autre duo avec Miroslav Hornicek. Donc ce sera le duo W+H.
Est-ce que l'amitié a pris fin malgré la séparation?
Absolument pas. Ça, je puis vous dire parce que j'ai rencontré la dernière fois Wehrich en 1977, en juillet 77 à Prague. Je me suis dit, là, Wehrich m'a laissé enregistrer notre entretien sur un magnétophone et je me suis dit, je vais quand même téléphoner à Voskovets pour savoir, voir à peu près comment il s'entendait. En fait, Wehrich a été très sympathique et puis malgré sa maladie, il s'est amusé avec moi plus hein, qu'autre chose.
Il correspondait quand même.
Ah oui, beaucoup parce que dans le recueil de correspondance, on voit qu'ils étaient sans arrêt en contact tous les deux. Et alors, Voskovets, après notre appel téléphonique. Voskovets a envoyé une lettre à Wehrich. C'était la première fois que je parlais au téléphone à Voskovets. Et une lettre datée du 7 juillet 1977. Il a mis 7-7-7-77. Écrit en tchèque, ces 7 ne sautent pas tous les jours. Alors, je te remercie pour le cadeau que j'ai reçu. Je pense que c'était un sac en cuir. Pour mon anniversaire, mais alors j'ai reçu un autre cadeau de ta part, mais vraiment un grand cadeau. Danielle Montmartre m'a téléphoné de Paris. Elle m'a dit que tu ne voulais plus parler du théâtre libéré, mais que tu envisageais de monter le malade imaginaire. Oh, que j'aimerais bien le diriger, ce malade imaginaire. Et il y a toute une lettre vraiment très poétique à ce sujet. On voit qu'ils étaient vraiment liés. Hein. Ils ont été liés jusqu'à leur mort.
Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já jí.
On se quitte donc avec cette très belle chanson de Wehrich et Voskovets. Wehrich et Voskovets dont est spécialiste Danielle Montmartre que vous avez pu entendre dans l'émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy.
Miroir de la société.
Cette semaine, Tomáš Halík, prêtre, philosophe et théologien, a obtenu le prix Romano Guardini qui est décerné tous les 2 ans par l'Académie catholique de Bavière pour d'excellents mérites en rapport avec l'interprétation de notre époque. Il est le premier tchèque à obtenir ce prestigieux prix qui a été attribué dans le passé, notamment au prix Nobel de physique Werner Heisenberg, au compositeur Karl Orff ou encore à l'ex-président allemand Richard von Weizsäcker. C'est le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, qui a été chargé de la laudatio. L'édition de samedi dernier du quotidien Lidové noviny a publié le texte intégral de l'intervention que le lauréat a prononcée à cette occasion et dont nous avons choisi pour vous quelques extraits. Tomáš Halík considère l'obtention du prix Romano Guardini comme une appréciation de toute la pensée tchèque qui a, d'après ses propres paroles, beaucoup à offrir à la culture chrétienne européenne, en dépit de l'étiquette de la nation la plus athée du monde qui lui est si souvent collée. Quelques jours avant la remise de ce prix, il a été invité à la télévision tchèque, une occasion pour lui de formuler en bref les principaux défis de notre époque.
Dans mes livres, je cherche à créer une philosophie du dialogue. J'estime que le dialogue des cultures constitue un élément particulièrement important du monde d'aujourd'hui. Créer des ponts entre les gens, percevoir le monde, aussi par les yeux des autres, est pour moi essentiel. Et c'est un défi qui est au cœur de l'intérêt de mes livres et de mes discours et conférences. Il s'agit aussi de montrer que nous ne sommes pas les propriétaires d'une seule vérité, mais que nous sommes tous en route. Nous apercevons les choses d'une certaine perspective, et il nous faut les autres pour compléter cette perspective. Le prix que je reçois est, à mon sens, une sorte d'appréciation de ces efforts en faveur d'un dialogue au sein de la société.
Attention aux paroles si elles sont à terre, tel est l'intitulé d'un des passages de l'intervention que Tomáš Halík a préparé pour la cérémonie de remise à Munich du prix Romano Guardini et dont le texte est publié dans les pages du quotidien Lidové Noviny. Nous citons.
Ce qui m'inquiète tout particulièrement, c'est la sacralisation et la démonisation qui s'imposent dans la politique et qui ouvre, entre autres, la porte à la violence à motivation religieuse, écrit Tomáš Halík en développant plus loin son idée.
Toujours, lorsque les gens commencent à utiliser dans leurs polémiques politiques ou conflits d'opinion la rhétorique religieuse, lorsqu'ils perçoivent leurs adversaires comme des démons, le grand Satan, l'empire du mal, etc., lorsqu'ils projettent sur leurs adversaires leurs propres démons, leurs ombres ou encore leurs caractéristiques négatives non avouées, les conflits d'opinion risquent de se transformer en de véritables conflits dévastateurs. On ne saurait s'entendre avec le grand Satan, il faut le détruire et de continuer.
Justement, le monde moderne qui sous-estime la religion, y compris ses potentielles forces destructrices, joue trop souvent et avec trop de légèreté avec le discours et les symboles religieux, en particulier au moment où il les utilise seulement comme des métaphores lors des polémiques politiques.
C'est lui qui est pleinement conscient de la puissance de la religion, de la langue et des symboles, reconnaît que la notion religieuse, en apparence innocente, devrait être munie d'inscriptions d'avertissement, comparables à celles que l'on trouve sur les panneaux d'électricité. « Il ne faut pas toucher aux fils électriques, même s'ils sont à terre », écrit l'auteur avant de conclure.
Lorsque les notions et les symboles qui ont évolué dans le contexte des grandes traditions spirituelles sont utilisés dans le contexte des combats politiques, on voit naître une nouvelle religion où le sacré se transforme en démoniaque, les dieux en monstres.
C'était donc une partie de l'intervention que Tomáš Halík a prononcée en recevant le prix attribué aux éminents intellectuels européens. Écoutons encore ce qu'il a récemment déclaré au sujet du rôle que l'Église est appelée à jouer aujourd'hui.
Au temps moderne, l'Église doit représenter une voix compétente intervenant dans un débat libre sur les questions morales fondamentales de notre époque. Prenons l'exemple de la crise économique. Elle prouve clairement qu'en cas de non-respect des valeurs éthiques élémentaires, tout s'écroule, y compris l'économie. L'accent mis sur les valeurs de la morale, sur la justice sociale, sur l'éthique dans l'entreprise, autant de sujets qui sont au cœur de l'intérêt de l'Église. Elle doit aussi satisfaire et répondre à beaucoup de gens qui ont une grande soif de spiritualité et qui cherchent des aspects spirituels, méditatifs, contemplatifs de la vie.
Et maintenant, changeons complètement de sujet. Le supplément du quotidien économique Hospodarské noviny consacre un article à un des passe-temps favoris des Tchèques, la cueillette des champignons. Une passion à laquelle ils peuvent se consacrer, notamment pendant la saison automnale, qui est particulièrement favorable. En introduction, son auteur écrit.
La cueillette des champignons en Tchéquie est presque aussi populaire que le sexe. Chaque année, 2/3 de l'ensemble des Tchèques se rendent dans la forêt pour cueillir les champignons. Chez nous, les gens ont l'habitude de cueillir tout et pendant toute l'année.
Contrairement aux législations de la plupart des pays européens, la loi en vigueur en République tchèque ne définit aucune limite pour la quantité de champignons que l'on peut cueillir et emporter d'une forêt. Selon le mycologue Michal Mikšík, la tradition de la cueillette des champignons est propre aux nations slaves et aux Tchèques en particulier.
Dans le passé, les champignons constituaient une importante denrée alimentaire, notamment pour les gens pauvres qui vivaient à la campagne ou dans des régions éloignées. Notre pays a souvent été dévasté par les guerres. Il y avait peu de nourriture et les champignons, qui étaient facilement accessibles, sont devenus un repas très populaire. Par ailleurs, on a pris l'habitude d'appeler les champignons « la viande des pauvres ».
Il existe encore une autre particularité tchèque. Dans aucun autre pays européen, on ne trouve un spectre aussi large de champignons comestibles.
Le cèpe, le lactaire, la chanterelle, la girole, le chèvrier, le bolet rude orangé ou certains autres encore représentent les champignons préférés des Tchèques. Un Tchèque moyen reconnaît une dizaine d'espèces de champignons.
La vraie saison de la cueillette des champignons commence maintenant. Comme l'écrit le journal Hospodarské noviny, on peut s'attendre à ce que l'on trouve désormais dans la forêt plus d'hommes que d'arbres. Vincent Richter et Alena Gebertovan ont lu la presse tchèque. Et c'est ainsi que se termine notre programme en français d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette émission de Radio Prague.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.